devenir son leader.
Bonjour et bienvenue sur notre podcast Devenir son leader. Avec 52 épisodes pour changer de vie, notre podcast a pour but de vous donner des méthodes simples et efficaces pour devenir le leader que vous rêvez d'être, devenir son leader. Je suis Nicolas Lubache, orateur et formateur dans l'art de créer des discours et dans le leadership interne. Notre épisode commencera par une interview de notre leader du jour, Anaëlle Sansé, formatrice en communication relationnelle, et puis pour terminer, avec un feedback sur une méthode que j'ai testée pendant une semaine. Quel sera le sujet d'aujourd'hui ? La bienveillance. Mais avant, commençons par une question de nos chers auditeurs et auditrices. Karine, 32 ans, secrétaire, nous écrit « Bonjour Nicolas, je suis une personne relativement bienveillante et j'ai remarqué que beaucoup de personnes attendent les fêtes pour devenir bienveillantes avec autrui et je trouve cela bien dommage. Comment les inciter à être plus bienveillants toute l'année ?» Merci Karine pour ta question ô combien importante sur le thème de la bienveillance. D'après mes recherches, bienveillance viendrait du latin bona vigilantia, la bonne vigilance ou le fait de bienveiller. Le sens serait plutôt d'exercer une bonne vigilance, d'être attentif à autrui. Les fêtes sont traditionnellement des moments de partage, de convivialité et d'amour. L'occasion, le temps d'un moment, de montrer et de donner le meilleur de soi-même. Pour le reste de l'année, la bienveillance peut se travailler. La meilleure façon de les inciter à être bienveillants est d'être soi-même bienveillant toute l'année, de se montrer comme un modèle sur lequel ils peuvent s'inspirer. Je connais exactement une personne qui peut le mieux nous en parler de méthodes bienveillantes. C'est notre leader du jour, Anaëlle Sansé. Bonjour Anaëlle.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien, merci.
Alors je te présente, tu es formatrice en communication relationnelle et aussi conférencière. Tu as un site qui s'appelle jecommuniqueautrement.org. Anaëlle, pourquoi je communique autrement ?
Alors, je communique autrement parce que il y a une façon de communiquer qui est assez traditionnelle. C'est un petit peu ce qu'on connaît tous et toutes depuis notre enfance. Et mon travail, c'est d'offrir des outils de communication différents de ce qu'on a l'habitude de rencontrer aux personnes qui souhaitent améliorer leurs compétences relationnelles.
Alors, tu proposes une communication différente. Est-ce que ça peut sous-entendre qu'on communique mal ?
C'est une question intéressante, ça. Il ne s'agit pas forcément d'une mauvaise communication ou d'une communication malveillante. On entend souvent dans le fait de communiquer autrement la communication positive, la communication non-violente ou bienveillante. Alors moi, ces trois termes me dérangent un petit peu parce que communication non-violente, ça peut sous-entendre que les gens qui communiquent différemment sont dans une communication violente. Communication bienveillante qui sont dans une communication malveillante, alors que il s'agit plus de la plupart du temps quand on communique mal, c'est plus maladroitement que de manière malveillante. Et pourquoi on communique maladroitement ? Tout simplement parce que nous n'avons pas appris à communiquer en conscience. La communication consciente, donc c'est le terme que j'utilise dans mon travail, c'est de communiquer en ayant conscience de l'impact des mots que nous choisissons sur la relation que nous construisons avec la personne, sur sa motivation, sa coopération et son estime de soi. Et donc voilà, la communication consciente, ça ne signifie pas non plus que nous allons toujours être au top dans notre communication. Mais lorsqu'on a conscience, par exemple, qu'une façon de communiquer peut être blessante, peut venir mettre la personne mal à l'aise, la faire se sentir incompétente, eh bien, on peut par la suite aller présenter des excuses, par exemple, rétablir la vérité. Je pense notamment quand avec un enfant, on peut se laisser un petit peu dépasser en disant « mais c'est pas possible, t'es pas capable de te comporter comme il faut ». La communication consciente, c'est de se dire après coup « ok, je viens de lui dire qu'il est pas capable de se comporter comme il faut, alors que ce n'est pas vrai ». C'est un mensonge de dire à un enfant qu'il n'est pas capable de se comporter comme il faut. Un enfant ne se comporte jamais sur une vie entière d'une manière qui ne nous convient pas. Par contre, lui dire par la suite « écoute, tout à l'heure, j'étais vraiment très fâchée, puis je t'ai dit que tu n'étais pas capable de te comporter comme il faut ben, », je te présente des excuses parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas tout à fait vrai. Parfois, tu arrives à bien te comporter, parfois tu te comportes d'une manière qui ne me convient pas, et c'est vraiment ça qui m'a dérangée. C'est ouvrir aussi le champ des possibilités pour la personne avec qui on communique, et ça c'est valable dans la relation adulte-enfant, mais c'est valable dans le couple, c'est valable dans une relation de travail avec nos collègues, avec nos supérieurs, avec nos employés. On a tendance, quand on est un petit peu fâché, à utiliser des phrases comme ça en disant toujours, jamais, en étant très réducteur avec les autres, ou même en les enfermant dans des prisons de mots. Hein, quand on dit à quelqu'un t'es nul, tu comprends jamais rien, c'est vraiment une prison qu'on met en place autour de la personne. Et si la personne a une estime de soi un petit peu fragile, ça peut faire de véritables dégâts.
Tu m'as parlé de communication consciente, mais comment en es-tu arrivé là ?
Alors, il y a une douzaine d'années, je suis devenue maman. À l'époque, je ne travaillais pas du tout en tant que formatrice en communication. J'étais photographe. Et ce petit garçon a permis une rencontre avec moi-même, en fait. Et cette rencontre, elle m'a pas mal bousculée. J'ai découvert des choses qui m'ont plu. J'ai découvert aussi des choses qui m'ont pas plu du tout dans le parent que j'étais en train de devenir. Parce que ça, c'est un véritable cheminement, la parentalité. On ne naît pas parent en même temps que notre enfant vient au monde. Je pense que vraiment, on construit ce parent en même temps que cet enfant grandit. Et voilà, bousculée par ce que je découvrais en moi et en face de moi, hein, j'ai eu envie de chercher une autre façon d'échanger avec mon fils, parce que je n'aimais pas la direction qui était en train de prendre cette relation. C'est pas ça que j'avais envie de construire dans ma relation parent-enfant. Et du coup, j'ai découvert la communication consciente à ce moment-là, persuadée que j'étais une bonne communicante à l'époque. Hein. Et alors là, je me suis pris une claque monumentale parce que je me suis rendu compte que je communiquais extrêmement mal. J'étais plutôt à la recherche, je pense, d'outils pour modifier le comportement de mon fils. Et finalement, j'ai trouvé des outils qui m'ont permis de changer la façon dont moi je me comportais, entre guillemets, la façon dont moi je communiquais, mes limites, mes exigences, mes émotions, etc. Et puis, du coup, je me suis formée parce qu'à l'époque, dans le Var, on avait du mal à trouver quelqu'un qui pouvait former d'autres parents. Et puis cette activité a commencé à prendre de plus en plus de place. Puis à un moment donné, il a fallu choisir entre ma carrière de photographe et donc mon activité de formatrice en communication. De la photo, je peux en faire tous les jours, même si je suis formatrice. Par contre, j'ai plus de mal à faire de la formation si je suis photographe.
Oui, apparemment, c'est plus difficile.
Tu veux dire que nous héritons en fait de mauvaises habitudes de communication de nos parents, de notre entourage qu'on essaie forcément de transmettre à nos enfants ou à travers les autres.
Alors, malgré nous, la façon effectivement dont les adultes vont communiquer avec nous des tout petits, ça va venir nous outiller de compétences relationnelles, on va dire. Et selon les outils qu'on utilise, on ne construit pas la même chose. Donc, sans dire que dans la communication que nous avons quasiment tous connue, une communication assez traditionnelle, il y a tout de mauvais. C'est pas du tout le cas. Il y a des choses très, très bonnes. Mais, par contre, il y a des outils qui, si je peux dire ça comme ça, qui sont peut-être un peu tordus, un peu rouillés, et qui ne vont pas forcément nous permettre de construire ce qu'on a envie de construire. Si je fais le parallèle avec le bricolage, parce que j'aime bien ce parallèle-là, il y a un moment donné, quand on se rend compte qu'avec ces outils-là, eh ben, on n'arrive qu'à faire des étagères tordues, ou que les charnières sont mal positionnées, etc., eh bien, on va aller chercher d'autres outils. Et moi, c'est le constat que j'ai eu. C'est à un moment donné, je me suis dit, j'ai grandi, mes parents, mon entourage, ils m'ont tous équipée de compétences. Alors, ça peut être des compétences apprises à l'école, hein, on s'outille à l'école aussi pour la vie. Mais par contre, il y a des compétences relationnelles qu'on n'apprend pas, qu'on ne transmet pas. Et c'est un véritable manque. On peut être, par exemple, on peut faire une belle carrière, on peut avoir réussi sa vie, comme on dit, professionnellement, on peut être à l'aise financièrement parce qu'on s'est donné peut-être les moyens d'avoir, de faire carrière dans quelque chose. On peut avoir une belle maison, une belle voiture. Par contre, vivre que des échecs relationnellement. Être en discorde avec sa famille, être sans arrêt en conflit dans son couple, ne pas s'entendre avec ses enfants, avoir de mauvaises relations avec son environnement professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on manque de compétences relationnelles. Donc réussir sa vie, c'est pas seulement réussir à avoir un bon job et être à l'aise financièrement. Réussir sa vie, c'est aussi pouvoir construire des choses solides relationnellement avec les gens qui nous entourent.
Je me rappelle avoir fait une formation avec toi, mmh, il y a quelques années, qui m'a bien outillé, qui m'a permis de me construire vis-à-vis de mes enfants. C'était pas facile tous les jours. Hein. Mais je me rappelle d'une chose qui était l'empathie. Mmh. Alors, est-ce que tu penses que l'empathie est quelque chose d'important dans une communication ?
Alors, effectivement, l'empathie, c'est... C'est réussir à percevoir comment se sent l'autre personne sans forcément se sentir soi-même comme ça, sans même forcément comprendre que la personne puisse se sentir comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a vraiment pas besoin de comprendre dans quel état la personne est, mais juste de voir et d'accueillir ce que la personne peut ressentir à un moment donné. Et l'empathie, c'est directement lié aussi à notre écoute, hein, à notre capacité d'écouter ce que la personne ressent. Et l'écoute, c'est la pierre angulaire d'une bonne communication, d'une communication saine. Si on retire l'écoute, hein, on va essayer, hein, malgré tout, de construire des choses, mais ça risque de rester fragile. Voilà, c'est une personne qui se sent profondément écoutée, reconnue dans ce qu'elle vit. C'est une personne qui va avoir plus de facilité à se confier, donc à être dans l'authenticité. C'est une personne qui va peut-être réussir à baisser sa garde. Et relationnellement, on a tendance à être toujours en garde parce qu'on a peur de montrer notre vulnérabilité. Et puis parler de ses émotions, c'est aussi se montrer vulnérable, c'est accepter quelque part d'ouvrir une fenêtre ou une porte de son cœur. Et si on se sent en sécurité dans la relation, eh ben, on n'a aucun problème à ouvrir des baies vitrées, toutes les fenêtres de notre cœur, etc. Et on sait que la personne, elle ne va pas ni mépriser ce qu'on peut ressentir, ni nous dire que voilà, qu'on n'a aucune raison de se sentir comme ça, etc. L'écoute et l'accueil de ce qu'on ressent, c'est ce qui va permettre de se sentir en sécurité dans la relation, et donc d'être authentique, de construire des choses profondes. S'il n'y a pas d'écoute, eh bien, on va construire, mais des choses qui vont rester très superficielles la plupart du temps, parce que la personne ne va pas nous donner accès à son cœur, et on va souvent pas lui donner accès au nôtre. Donc voilà, on reste dans quelque chose de superficiel, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans des relations de travail, mais quand on ne donne pas accès à son cœur dans des relations familiales, des relations de couple ou des relations parents-enfants, c'est quand même dommage. On se prive de toute la profondeur, de toute l'authenticité de la relation.
Donc la communication consciente est plus une communication du cœur plutôt qu'une communication de logique.
Alors oui et non, parce que quand on entend communication du cœur, on peut aussi penser que du coup on communique beaucoup avec son feeling. Et le feeling peut être très positif, mais il peut aussi nous emmener dans de sacrées maladresses. On n'a pas tous le même feeling. Hein. Je vous laisse imaginer si on a été élevé dans une famille où on ne parle pas des émotions, où pleurer c'est pour les faibles, où t'as pas ton mot à dire sur quoi que ce soit. T'es en colère, tu vas dans ta chambre parce que voilà, c'est la colère, c'est quelque chose de mal. Eh bien, le feeling d'une personne qui aurait été élevée comme ça, il va être teinté de tous ces principes éducatifs, de toutes ces idées même sur la relation, sur la vie, sur les émotions. Et du coup, ça va être un feeling qui va pousser la personne à nier les émotions des autres, à repousser la colère comme étant une composante négative de la relation, alors que c'est pas le cas quand elle est bien utilisée, cette colère. Et du coup, le feeling, ça va être un feeling un petit peu... ça va être un feeling... qui ne va pas nous aider à construire justement une relation authentique, puisque il ne va pas laisser la place à notre interlocuteur de nous donner accès à son cœur. La personne va plutôt être sur la défensive et protéger toute sa sphère émotionnelle. Par contre, si on a été élevé en se sentant légitime dans nos émotions, avec une place pour chacune de nos émotions, avec la place pour l'échec, avec une écoute authentique, et bien là, notre feeling va nous emmener à construire quelque chose de profondément respectueux dans notre communication aux autres, etc. Donc le feeling, je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est pas lui qui doit être décisionnaire. C'est-à-dire que nos émotions, si elles prennent le contrôle, on est dans la panade quand même. Notre feeling, s'il prend le contrôle total, on est aussi dans la panade la plupart du temps, parce qu'on n'est pas nombreux à avoir été élevés avec l'accueil de nos émotions, etc. Donc, que ce soit nos émotions, que ce soit le feeling, ils sont des informateurs, ils viennent nous emmener des petites informations, et puis après, on branche le cerveau, et puis on prend des décisions dans ce qu'on souhaite communiquer à partir de ces informateurs-là. Mais on ne va pas leur laisser la barre.
Merci Anaël pour toutes ces précisions sur la communication consciente.
Avec plaisir.
Parlons un peu de ta vie. Raconte-nous un peu tes plus grands succès.
Alors, mes plus grands succès. Je dirais que un de mes plus grands succès, c'est d'avoir réussi à communiquer autrement, parce que je reviens de loin là-dessus. C'est pas parce que c'est mon travail aujourd'hui que c'est une facilité pour moi. À l'adolescence, je détestais les humains, vraiment. Déjà, je les comprenais pas. Pour moi, j'avais l'impression d'être un extraterrestre qui avait débarqué sur une planète. J'étais beaucoup dans l'observation avec les gens, j'étais beaucoup dans l'analyse, mais j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait dans la relation, etc. Et je me suis intéressée très tôt à la psychologie, à la communication, bien avant que ce soit mon métier, parce que j'avais soif de comprendre ce qui se passait en moi, chez les autres, et dans la relation. Et Donc j'étais une adolescente plutôt introvertie. J'avais beaucoup de mal justement à donner accès à mon cœur aux gens, même ceux qui mettaient en place tout ce qu'il fallait pour que je me sente en sécurité. Et puis voilà, à force d'apprendre déjà à me connaître, à poser mes limites, j'ai pu petit à petit baisser ma garde et réussir à être en relation avec les autres d'une manière plus sereine. Voilà, ça c'est ma grande réussite, quelque chose dont je suis très fière. Et c'est quelque chose de libérateur parce que, voilà, aujourd'hui, je me sens toujours un petit peu extraterrestre. Hein, mais en tout cas, j'ai réussi à apprivoiser le genre humain.
Alors, parlons de ton plus grand échec.
Alors, mon plus grand échec. J'ai pas de souvenir d'un énorme échec. Par contre, une succession de petits échecs. Voilà, c'est plutôt ça. C'est des fois où je me suis plantée. C'était ni grave, ni pas grave. Mais par contre, ces petits échecs, ils m'ont emmenée à, peut-être à bouger les lignes, à modifier certaines choses dans mon organisation, dans ma façon de communiquer, etc. Et c'est intéressant parce que quand les échecs... on leur laisse toute la place, toute leur place, parce qu'ils ont une véritable place dans notre cheminement, eh bien, ils deviennent des occasions d'apprendre, des occasions de changer de cap. Et finalement, ça peut être même salvateur d'être en échec. Je sais que de nombreux scientifiques, de nombreuses personnes qui ont fait des grandes choses ont vécu une succession d'échecs tout au long de leur vie avant d'arriver enfin à des succès, à de grands succès. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de revisiter, même dans notre relation avec les gens, mais dans notre relation avec les enfants, parce que les enfants sont dans des... Voilà, ils sont en train de se construire et ils vivent des échecs constamment. Un enfant qui apprend à marcher, hein, on va partir de là, il va tomber à plusieurs reprises. Et les fois où il va tomber, ça va l'aider la fois suivante à prendre des appuis différents, à réguler sa vitesse. Et dans la vie, c'est un petit peu la même chose. On a besoin parfois de tomber pour se dire « Ah bah tiens, là peut-être qu'il faut que j'aille moins vite » ou « Là peut-être faut que j'aille plus vite, que je prenne des appuis différents, que je m'appuie et que je me fasse soutenir peut-être par des personnes différentes. » Et moi, j'aime bien l'échec. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, l'échec ne me dérange pas plus que ça. Ça ne veut pas dire que ce soit confortable sur le moment. On est d'accord, hein, sur le moment, être en échec, ça nous bouscule et ce n'est pas toujours agréable. Mais ça peut être très positif, selon le regard qu'on porte sur lui.
Donc on peut dire que le succès, c'est la somme de tous les échecs ? Je vais créer une transition sur autre chose.
Oui.
Imagine-toi il y a quelques années, ou alors aujourd'hui, tu te retrouves face à la petite Annaëlle, qui avait 14 ans, rayonnante, pleine de vie. Quel conseil tu lui donnerais pour mieux appréhender la vie ? Quelle méthode ou astuce ?
Je lui dirais de se faire plus confiance et justement peut-être de pas avoir peur de chuter à certains moments et que peut-être elle aura des égratignures sur les genoux, peut-être qu'elle aura des ampoules à force d'avancer, peut-être même de tâtonner, de errer à droite à gauche, mais qu'elle va finir par se trouver et qu'elle a des chouettes choses à vivre en fait. Et ouais,
prendre plus confiance en soi.
Ouais, et puis...
ne pas avoir peur des échecs.
On voit pas forcément... Il n'y a pas forcément la lumière au bout du chemin, mais en tout cas, on avance, et puis petit à petit, on voit des choses se dessiner. Voilà, c'est dans ce sens-là où je dis, fais-toi confiance, avance, et puis si tu chutes, tu te relèves. Prends le temps aussi de te remettre de tes échecs, et ça va le faire.
Ben, merci à Naël. Alors je vais reprendre les plusieurs points positifs. Tu nous as parlé de communication consciente, de l'estime de soi, la nécessité surtout de subir ou de traverser les échecs, justement pour arriver à la personne que tu es aujourd'hui, une personne rayonnante. Ça fait vraiment plaisir de te voir comme ça. Et je vais parler aussi de ton projet, de ton atelier de cet été. C'est un atelier d'été sur les relations parents-enfants.
Alors, adulte-enfant, c'est pas forcément
adulte-enfant. D'accord, adulte-enfant, qui se passera à la Castille. Et je propose aux auditeurs et auditrices de te retrouver sur le site www.jecommuniqueautrement.org. Vous aurez tous les détails pour cet atelier que j'imagine déjà très créatif et très intéressant. Merci à Naël.
Avec grand plaisir.
Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et je te dis à la prochaine.
Oui, à la prochaine. Au revoir.
Merci à Naël. Nous venons de le voir, communiquer avec bienveillance est un facteur clé d'une relation plus harmonieuse avec autrui. Passons maintenant à l'exercice de la semaine. Cette semaine, je me suis donné le challenge du cahier de bienveillance. La simplicité de cette méthode m'a séduit et je vais vous l'expliquer. Avant de vous coucher, prenez un cahier et un stylo. Écrivez trois actions positives que vous avez effectuées dans la journée envers une autre personne. Répétez l'exercice tous les jours. Cet exercice m'a fait prendre conscience de la bienveillance et surtout des actions de bienveillance que j'ai commises dans la journée. Et cela m'a rendu fier de moi. J'en suis même arrivé à avoir de la gratitude pour les autres personnes de m'avoir donné une occasion de les aider. Quoi de plus gratifiant que de voir leur sourire illuminer votre journée ? Testez cette méthode et laissez-moi un commentaire pour me raconter les changements que vous avez perçus. J'aimerais remercier Anaëlle pour sa participation à l'interview. Allez voir sur son site jecommuniqueautrement.org www.jecommuniqueautrement.org que je vous conseille fortement. La semaine prochaine, nous parlerons d'authenticité. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine !